Nous en sommes donc au livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 40. Dans le livre des Actes des Apôtres, il n'est pas question d'autre chose en général que de l'avancée de la parole. Et cela, bien sûr, est lié à la volonté de Dieu uniquement et non seulement à celle des hommes. Ainsi, Pierre, Paul et tous leurs compagnons sont vecteurs, porteurs de la volonté de Dieu et ne décident jamais eux-mêmes, à la place de Dieu, de ce qu'il veut faire ou dire. À chaque décision grave, ils s'en réfèrent aux autres et ont des encouragements venant de Dieu, soit par vision, soit par une lumière et une voix. Nous nous rappelons le texte de la semaine dernière, c'était Paul sur son chemin entre Jérusalem et Damas. Je vous donne juste un petit exemple, c'est au chapitre 18, les versets 9 à 11, donc juste le chapitre précédent. Pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul en vision, « N'aie pas peur, parle, ne te tais pas, car moi je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il resta un an et six mois, enseigné parmi eux la voie de Dieu. Aujourd'hui, Paul se trouve à Éphèse, et il s'y trouve presque seul, puisque le texte nous a dit qu'il a envoyé ses compagnons, il les a envoyés à l'extérieur, et lui est resté un petit peu en Asie. Éphèse, il se trouve à Éphèse, c'est la capitale de la province romaine d'Asie, et c'est une capitale qui est grande, le proconsul romain y réside. Artémis, c'est la déesse de la fécondité. C'est une grande statue que l'on dit, vous l'avez entendu, tombée du ciel. Et le temple d'Éphèse était particulièrement imposant, 133 mètres sur 69 mètres. Vous voyez comme c'est grand. Il était considéré comme l'une des sept merveilles du monde. Le plus étonnant dans ce temple, c'était le fonctionnement de son trésor. Son trésor, ce sont les offrandes qu'amènent les fidèles, qu'offrent les fidèles à Artémis. Elles étaient tellement importantes, ces offrandes, qu'elles permettaient au temple de fonctionner comme une banque, tant pour l'État d'Éphèse que pour les particuliers. Son rôle était donc énorme dans l'économie éphésienne. Cependant, les habitants d'Éphèse étaient des gens tolérants qui admettaient dans leur ville une grande multiplicité, une grande pluralité religieuse. D'ailleurs, l'action des prêtres du culte provincial et du culte de l'empereur, ce que l'on appelle les asiarques, on en a parlé, en témoigne. Donc c'était les prêtres de l'empereur. Ils essaient de protéger Paul, n'ayant sans doute pas trouvé de blasphème ou de danger dans sa prédication, à l'égard d'Artémis ou de l'empereur. Le texte nous dit même qu'ils étaient amis de Paul. Et Paul, justement, dans ce texte, n'est quasiment pas présent, avez-vous noté. Pendant cette émeute, il veut s'y rendre, mais il en est empêché. Il est donc empêché de descendre pour argumenter avec Démétrios. Donc nous n'avons aucune parole de la part de Paul. Nous n'avons pas de théorie sur le rapport entre la parole qu'il porte et l'argent, l'économie. Le propos de Démétrios est soutenu par la constatation de l'avancée de la parole que portent Paul et les adeptes de la voie. Je vous ai lu le petit texte avant sur les exorcistes juifs pour que vous ayez conscience, justement, de cette notion d'économie qui a débuté avant même l'émeute de Démétrios. Des exorcistes juifs, il y avait une forme de scission entre les juifs et Paul à Éphèse, ont essayé de guérir des malades en invoquant le nom de Jésus. Mais leur but n'était certainement pas de louer Dieu ou de mettre leurs pas derrière ceux de Jésus. Leur but était d'avoir un peu de gloire. Et la conclusion de ce petit événement est très intéressante. Le fait va être connu de tous les Éphésiens, ils vont être saisis de crainte, ils vont louer Dieu et ils n'hésiteront pas à reconnaître publiquement leur attachement à la voix. Donc, les hommes ne se cachent plus pour montrer leur attachement à la voix. Et ceux qui avaient cru en des sciences occultes, nous dit le texte, brûlaient leurs livres, des écrits très chers, puisque le montant, leur valeur est estimé énorme, plusieurs milliers de pièces d'argent. Ils les brûlent parce qu'ils se rendent compte que ces livres, ce n'est que superstition. Et là, encore, dès le départ, c'est un point économique qui est noté. Ces livres qui étaient fort chers sont brûlés, leur valeur économique étant mise au second plan par rapport à la valeur spirituelle, existentielle, que leur donne la parole de Dieu, que proclame Paul. Il proclame le baptême selon l'Esprit, il proclame l'amour gratuit, il proclame la manière de vivre éthiquement les uns avec les autres, il proclame la repentance. Ça, c'est la proclamation du discours de Paul. Démétrios, conscient de ce fait, tout d'un coup, prend peur et soulève tout le monde, mettant la confusion dans l'esprit. Cependant, sa peur est bien réelle. Si toute la ville d'Éphèse se mettait à suivre l'exemple de ces adeptes des sciences occultes, plus personne n'achèterait les objets de grande valeur que Cisèle les orfèvres. Et peut-être même n'y aurait-il plus d'offrandes assez importantes pour que le temple puisse continuer son rôle de banque. Alors, l'économie de toute la ville, voire de la région d'Asie, risquerait d'en souffrir gravement. C'est la première fois que l'on constate dans l'histoire du début du christianisme que la prédication religieuse a des conséquences économiques. Y a-t-il incompatibilité entre l'engagement chrétien et l'organisation sociale et économique d'une ville ou d'un pays ? Nous gardons cette question en tête. Pendant l'émeute, la confusion est extrême. Le peuple sent bien que la remise en cause de son idole, Artémis, peut engendrer des catastrophes économiques, donc rejaillissance sur la vie quotidienne, bien sûr. Alexandre, qui est juif, est pris à partie. Il semble même que cette confusion fasse basculer le jugement de chacun. Ils en deviennent xénophobes. Ils excluent. Alors que je vous les ai présentés, ces Éphésiens, comme étant des gens tolérants. Nous constatons que le processus est toujours le même aujourd'hui. Des personnes au verbe haut et fort peuvent soulever des foules avec des propos confus. Ce sont des propos suscitant surtout la peur des foules. Mais surtout, et c'est là le drame, la peur suscite non seulement la bêtise, mais la violence, le rejet de l'autre, l'incapacité à l'écouter, à le rencontrer. Heureusement, dans notre texte, se trouve là le secrétaire. Alors le secrétaire, si je reprends un petit peu façon étude biblique, c'est pour vous expliquer toutes les personnes et leurs fonctions. Le secrétaire, c'était celui qui avait pour fonction, pour tâche, de diriger les débats dans la ville. On peut donc imaginer que c'était un homme dont le jugement se devait, pour tenir une telle charge, de savoir analyser et pacifier les débats afin qu'ils aient correctement lieu. Et celui-ci fait la part des choses. La prédication de Paul ne combat pas Artémis, dit-il. L'évidence de la place d'Artémis depuis longtemps, statue tombée du ciel dans Éphèse, n'est absolument pas mise en cause par les propos de Paul. Il est vrai que les textes juifs ont depuis longtemps combattu les objets considérés comme des dieux, alors qu'ils ne sont que bois, pierre ou autre matière. Mais est-ce là l'essentiel de la prédication chrétienne ? Non, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Le secrétaire renvoie donc aux lieux officiels de justice les récriminations de Démétrios et de ses orfèvres. C'est une remarque que je fais avec un peu d'humour. Est-ce que ce secrétaire est en train de séparer déjà le temporel du spirituel? Peut-être. Nous pourrions nous poser, après avoir lu ce texte et y avoir un peu réfléchi, deux questions. La toute première, c'est la question des idoles. Nous savons bien ce que sont des idoles. Elles sont créées par l'esprit, par l'attente, par le désir et souvent le fantasme de chacun de ceux qui les vénèrent. Jean Calvin n'était pas iconoclaste. Il ne cherchait pas à éliminer tout tableau, toute sculpture, mais il refusait que des personnes les considèrent comme étant un lien possible à Dieu. Pour lui, le seul qui nous permette d'être en lien avec Dieu, c'est Christ. Même Marie, sa mère, même tous les saints, malgré leurs actes et paroles remarquables, ne sont que des humains, bien loin de ce qu'était Jésus dans son rapport à Dieu. Alors un tableau, une statue, un écrit ne sont que matière, jamais des objets sacrés à vénérer. Ce ne sont que des objets. Quand je prends ma Bible dans les mains, c'est un livre. Je ne l'embrasse pas. Voilà depuis la Réforme notre compréhension protestante. On comprend bien que nos amis chrétiens, vénérant Marie, l'appelant Mère de Dieu, embrassant le Nouveau Testament, cherchant d'autres intercesseurs devant Dieu que Christ ou l'Esprit Saint, soient déconcertés, bien souvent, par la théologie protestante. Pour Calvin, même la Sainte Cène était quelque chose qui donnait à réfléchir. Elle était un lieu de rencontre lié à Christ, par Christ, à Dieu. C'est par la scène que l'on prend, le pain qui reste pain, le vin qui reste vin, c'est par ce pain et ce vin qu'on peut peut-être entendre et comprendre et donner à comprendre ensuite ce que Dieu veut pour nous et entend de nous. Calvin aurait bien aimé que la scène soit célébrée à chaque culte. Mais là, le conseil de son église à Genève lui a demandé, justement, afin qu'elle ne paraisse pas un geste magique, qu'elle ne devienne pas une sorte d'idole, il lui a demandé qu'elle ne soit célébrée qu'une seule fois par mois. Voilà bien un signe de la faiblesse de l'être humain, cherchant si souvent une protection de Dieu par des moyens superstitieux. Nous en sommes tous menacés. En avez-vous conscience? C'était ma première remarque quant à ce texte. Le discours chrétien, c'est la deuxième remarque, doit-il être absent de la vie économique du monde? Cela revient à ma toute première question. Revenons à nos amis éphésiens. Nous ne sommes pas loin aujourd'hui de leurs problématiques, et oui. Les fêtes religieuses, les grands moments que sont baptême, mariage, décès, culte, pèlerinages divers, sont pleinement devenus des événements commerciaux. Bien des commerces, bien des entreprises en vivent. Nous n'hésitons pas à faire fonctionner ce commerce, d'ailleurs, en achetant des Bibles, en nous abonnant à des journaux religieux, en décorant notre sapin de Noël, en allant retrouver nos sœurs et nos frères à Mialet, en visitant des lieux historiques protestants et en achetant des pièces commémoratives. J'irai même plus loin, en salariant nos pasteurs. Et j'arrête là mon énumération, toute protestante, j'ai fait attention. Devrions-nous interdire tout ceci? Est-ce incompatible avec notre foi chrétienne? Il en est de même d'ailleurs pour notre message. Doit-il être neutre et ne jamais aborder le problème de l'argent dans les lieux où le problème de l'argent est un vrai problème? J'ai noté récemment un article à propos du voyage du pape François en Amérique latine. Tout allait bien quand il caressait les politiques et les grands industriels dans le sens du poil. Mais il y a eu d'autres messages de sa part. Et ces messages, alors, ont fait grincer bien des dents. Je vous lis juste une ou deux de ces phrases. Certainement, dit le pape, pour un pays, la croissance économique et la création de richesses sont vraiment nécessaires. Et il faut que celles-ci arrivent à tous les citoyens, sans que personne ne soit exclu, et non au profit d'une minorité. Aux entrepreneurs, hommes politiques, économistes, il a demandé de, je le cite, ne pas céder au modèle économique idolâtre qui a besoin de sacrifier les vies humaines à l'autel de l'argent et de la rentabilité. C'est là que les politiques économistes et entrepreneurs se sont mis à dire qu'il allait trop loin. Qu'il parle de la religion, oui, certes, mais pas de leur travail et pas de leurs activités économiques. Alors je vais vous demander simplement, qu'en pensez-vous chacun vous-même ? Et je n'irai pas répondre. Je vais suivre le silence de Paul, parce que le silence de Paul sur ce sujet donne à réfléchir. Il demande à chacun de trouver soi-même sa réponse. Il indique peut-être que lui, Paul, ne désire pas instaurer sa parole comme une idole par rapport à qui l'écoute. Il invite chacun à réfléchir. Et je suis heureuse que Paul n'ait pas développé une morale à ce sujet. C'est en effet à chacun de nous en son cœur, sans doute et très certainement aidé dans ses réflexions par l'Esprit, s'il le lui demande, de savoir se positionner par rapport à l'argent. Il peut aider, il peut permettre l'argent, selon notre liberté par rapport à lui, à tisser des liens entre les êtres humains. Il peut permettre d'accueillir, de soigner et d'aider à vivre qui n'a plus rien ou qui n'a jamais rien eu. L'argent permet de renforcer la fraternité. D'ailleurs, Paul lui-même a lancé une collecte dans les églises qui se sont développées en pays païens ou, disons, non-croyants, par exemple à Éphèse. Il a lancé dans toutes ces églises une action, une collecte, pour venir en aide aux chrétiens de Jérusalem qui, en ce temps-là, souffraient d'une énorme famine. Il y a tant à faire de par le monde, tant de lieux où le partage des richesses soulagerait, serait signe d'amour. Amen. Et je vous invite à chanter le 47-15.